J'ai profité de cet été, mois de juillet, d'être au calme pour regarder de plus près le monde dans lequel je vis. Et j'ai lu, et sûrement vous aussi, toutes ces manifestations antiracistes suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Cette mort qui a donné lieu à des scènes étonnantes autour des statues dans nos villes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. En France, puisque j'étais là, Charles de Gaulle a été badigeonné, la statue de Charles de Gaulle, pas lui. La statue de Charles de Gaulle a été badigeonnée de jaune. Colbert est menacé d'être déboulonné. Gallieni et Federbe sont dans le collimateur des militants d'histoire épurée, de ces figures colonialistes, voire racistes. Et c'est vrai qu'il y a le De Gaulle du 18 juin et celui du « je vous ai compris », c'est son discours à Alger, et qui a été très mal pris par les pieds noirs. De même, il y a le Pétain de Verdun, et puis il y a celui de Vichy. De même, il y a le Jules Ferry de l'école pour tous et celui de la colonisation au nom des Lumières. Il y a en France le Colbert organisant le royaume et celui du Code noir. Et puis il y a le Federbe qui sauve le nord de la France des Prussiens en 1870 et c'est aussi le colonisateur du Sénégal avec violence. Ériger une statue, c'est proposer une personnalité en exemple à tous. C'est célébrer son œuvre. Alors je voudrais faire une parenthèse. Il y a beaucoup de statues un peu partout dans le monde, mais surtout d'hommes. Très peu de statues de femmes. Donc mesdames, vous ne craignez rien. On ne fait pas rentrer n'importe qui au Panthéon. On pourrait donc mettre au musée les statues de ceux qui font certes partie de notre histoire, mais qui sont bien peu exemplaires. Et je me suis demandé qui n'a pas sa part d'ombre. Quelle figure historique est irréprochable ? Quel statue pourra résister à l'examen des générations après elle? Et pourtant, abattre les statues est un signe de liberté retrouvée. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a renversé les statues de Staline, de Mussolini, de Saddam Hussein, de Pol Pot. Vous voyez ? Il faut arriver à démasquer, en fait, les fausses valeurs. Alors, je voudrais prendre le problème autrement. J'ai lu qu'il y avait des entreprises qui avaient une manière de manager leur équipe, de manière assez particulière. Alors, certains d'entre vous ont travaillé dans des entreprises, donc manager une équipe n'est pas simple. C'est-à-dire, un management dit libéré, c'est-à-dire qu'il repose sur la responsabilité de ses employés. Et il y a un patron très emblématique de cette philosophie, il s'appelle Zobrist. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, Zobrist. C'est quelqu'un qui a travaillé chez Favi, qui est une fonderie de pièces automobiles, et qui résumait sa philosophie en disant « Dans mon entreprise, la première valeur limite que j'ai imposée, c'est l'homme est bon. » Pourtant, on voit, du moins en France, pas en Suisse, hein, en France, que les entreprises voient se multiplier les arrêts maladie de complaisance. Les fraudes sociales atteignent des sommets énormes. En 2019, le fisc français a récupéré 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros de fraude. Les radars de vitesse sur les routes ne cessent de flasher. Donc, ce qu'on constate, c'est que la traite humaine reprend de plus belle après le confinement, avec les mafias. L'homme est bon, c'était le postulat de Zobrist. Ce credo est généreux, mais il se heurte à l'écueil de la réalité. Je ne vois pas toujours l'homme bon autour de moi. Et les faits sont toujours têtus. C'est la société qui corrompt l'homme, disait-on à un moment donné. Il suffit de révolutionner la société et l'homme devient bon. C'est ce qu'a essayé de faire le bolchevisme avec le résultat que l'on connaît. Qui veut faire l'ange fait la bête, disait Blaise Pascal. La parabole du bon grain, qu'Elisabeth a lu tout à l'heure, et de livrée de ce dimanche, vient avec sagesse tordre le cou à ces deux mythes complémentaires de la noirceur sans nuance, c'est-à-dire déboulonner les statues et de la bonté sans mélange, pas de contrôle. Alors on va rentrer dans cette parabole. Un mot d'abord sur le contexte de cette parabole que nous avons lue, de l'ivraie et du bon blé. Cette parabole vise les faux chrétiens qui, au 1er siècle, s'immisçaient dans les premières communautés chrétiennes pour des raisons multiples. Il y avait des convertis du bout des lèvres prêt à retourner au judaïsme ou au paganisme au premier obstacle. Il y avait des croyants sincères, mais que les menaces, les persécutions effrayaient, à juste titre. Les moins courageux pouvaient dénoncer leur famille, l'Église, pour éviter la prison ou le supplice. Sans oublier les espions romains ou juifs qui infiltraient les communautés chrétiennes. Livrer, semer avec le bon grain était d'abord cette part de communauté qui pouvait se retourner contre elle sous la pression des ennemis des chrétiens, si nombreux à l'époque. Une fois la paix de l'Empire accordée, après l'édit de Constantin, la parabole fournit un autre domaine de réflexion et d'interprétation pertinent. Le champ des semailles peut représenter la vie intérieure de chacun, son parcours spirituel. Dieu, le propriétaire du champ, n'y sème que du bon grain, mais ne peut empêcher qu'un ennemi tente de gâter la récolte en y mélangeant de l'ivraie. C'est donc que la présence du mal en nous est inéluctable. Dieu lui-même n'y peut rien. Et Jésus fait avec sagesse un constat lucide. L'homme est mélangé. Il n'y a pas en lui que du bon. Il n'y a pas en lui que du mal non plus. Il est depuis toujours cet arc-en-ciel de nuances qui entache les héros les plus grands et empêche de désespérer des personnages les plus ignobles. N'enlevez pas livré, dit Jésus. L'avertissement est solennel. Ne croyez pas que l'on puisse enlever totalement le mal de la vie collective ou personnelle. Et cette tentation de la pureté est suicidaire, car vous risquez d'arracher le blé en même temps. Déboulonner les statues à cause de l'ambivalence de leur titulaire peut conduire à abattre toutes les statues, c'est-à-dire à ne plus avoir d'histoire. Croire qu'on peut fabriquer un homme nouveau. Enfin, par toute compromission, c'est comme ça que démarrent toutes les dictatures. C'est comme ça que démarrent toutes les horreurs de l'histoire. Séparer, livrer de la bonne semence, c'est ce qu'a essayé de faire le nazisme avec l'arien, l'homme arien. Les justices d'exception, l'épuration ethnique, et on l'a vu un peu partout. On peut être trouver de l'intransigeance aussi dans les religions, sur le divorce par exemple dans l'Église catholique, la contraception, l'homosexualité, ou bien c'est la peur des pratiquants réguliers lorsqu'ils voient débarquer en masse les occasionnels. Vous savez, on se méfie, on se dit, oh, ils ne viennent que de temps en temps, hein, comme les hirondelles, au bon moment. Sur le plan personnel, ce constat lucide, me semble-t-il, est salvateur. Oui, c'est normal qu'il y ait du mal en moi. Chacun de nous est à la fois le docteur Jekyll et Mr. Hyde. Moi, je deviens Mr. Hyde quand je suis au volant de voiture et qu'à un moment donné, je m'énerve. Et même mes enfants me disent, mais on ne te reconnaît pas. Je perds, vraiment, je deviens impatient. C'est extraordinaire. Comment se fait-il que tout d'un coup, on change, même dans le visage, nos expressions. Donc, cette présence, ces aspects fragiles de notre personnalité sont là. Je n'en suis pas responsable, c'est un ennemi qui fait ça en moi et je dois extirper cela. Mais ce mal me traverse, il s'incorpore dans ma structure de pensée, d'action, de jugement, simplement parce que je suis un être humain. Je participe de ce mélange et dont je ne me rends même pas compte parfois. Tous les épis ne sont pas apparus. Ainsi, le meilleur des hommes au 18e, 19e siècle, peut être esclavagiste sans avoir de problème de conscience. Ainsi, Jules Ferry peut-il être colonialiste au nom des Lumières, par lesquelles l'Occident allait apporter le progrès et la civilisation à tous les peuples. C'est ce qu'il pensait. C'est ce que le pape Jean-Paul II appelait les structures de péché au niveau collectif. Je n'aime pas toujours ce qu'il écrit, Jean-Paul II, hein, entre nous soit dit, mais là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très précis. Et que depuis Augustin, nous appelons le péché originel au niveau personnel. Et bien malin qui pourrait se croire libre de toute forme d'asservissement au mal, d'une manière ou de l'autre. D'ailleurs, qui sait si ceux qui veulent déboulonner les statues ne seront pas durement jugés par leurs arrière-petits-enfants dans un siècle ou deux. Qui sait si telle pratique, qui aujourd'hui nous paraît évidente, naturelle et juste, ne sera pas dénoncée par les générations suivantes comme inhumaine, intolérante. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous, dit Jésus dans l'évangile de Luc. Les zélateurs d'une pureté historique, sans faille, feraient bien de se méfier des revers de l'histoire où ils apparaîtront à leur tour comme des monstres aveugles. Alors, quand je suis revenu, et en pensant à mon culte de ce matin et à la méditation de ce matin, je suis allé très vite voir s'il n'était rien arrivé de mal à la statue de Vadian. Dieu merci. Rien. Comme quoi, dans l'histoire, il y a des statues qui n'ont rien à se reprocher. Pour autant, ne pas extirper le mal ne signifie pas consentir. La parabole demande d'exercer cette forte vigilance pour repérer assez vite les parcelles contaminées qui sont en nous. Et surtout, elle demande d'enlever l'ivraie au temps de la moisson pour la lier en bottes et la brûler. C'est donc qu'il faut le recul du temps et de la sagesse pour combattre l'ivraie en nous. Mais il n'est pas question de capituler. Hein, c'est comme... c'est une malédiction, c'est en nous, c'est se résigner. Non, on ne doit pas se résigner à ce mal. Nous moissonnons plusieurs étés au cours de notre vie, et à chaque fois, en prenant du recul, de la distance, en relisant notre histoire à la lumière des Écritures, nous apprenons à discerner ce qui peut être amassé dans le grenier de notre cœur. Et ce qui n'est finalement qu'un feu de mauvaises herbes. Ainsi, de moisson en moisson, loin de nous résigner à la présence du mal, en nous, nous le transformons en compagnon de voyage qui nous rend vigilants sur notre croissance. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'écharde dans la chair, qui rappelle... En fait, notre humanité, nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes des êtres humains faillibles. Le mal en nous est finalement utile si nous muselons assez nos démesures pour ne pas trop blesser autrui. Accepter le mal en soi n'est donc pas y consentir, mais la parabole nous invite à accepter aussi le blé qui est semé en nous, plus fondamental, puisque c'est le projet de Dieu. Alors vous voyez, l'amour de soi est au prix de ce travail d'auto-évaluation. Ne cherchez pas à être meilleur que ce que vous êtes. Nommer le mal qui est en nous, c'est une manière de le surmonter. Et année après année, c'est une manière de faire le point, de prendre du recul. Et en rire. Il dit, quand j'ai arrêté de m'énerver au volant, une fois arrivé à la maison, on en rigole. Il dit, mais tu te rends compte comment tu t'es comporté, qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et puis on se remémore ces moments où on a été ridicule, où la violence, où l'absurde a pris le pas. Et c'est une manière de combattre ce mal qui est en nous. C'est ce recul. C'est aussi une des forces du peuple juif qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. L'autodérision est une manière de prendre du recul, de ne pas se prendre au sérieux. Finalement, l'important dans la parabole et de grandir. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Que cette croissance soit mélangée ne doit pas nous étonner, nous scandaliser, nous décourager. Chacun a son côté obscur et son côté lumineux. L'essentiel est de grandir. Grandir en humanité, en sagesse, jusqu'à relativiser la présence du mal qui est en nous. Les moissons successives au long des années nous apprennent à ne pas nous attarder sur les mauvaises herbes qu'il faut régulièrement effectuer pour nous concentrer sur les épis gorgés de vie et à récolter. Laisser pousser en nous le blé et l'ivraie, faites grandir sans cesse le meilleur de vous-même sans vous laisser détourner de cette croissance. Alors le grenier de votre vie aura de quoi nourrir votre famille, vos amis, vos collègues, les voisins, comme Joseph en Égypte. Et tout ivré et brûlé, vous pourrez rire des échardes plantées dans votre chair en célébrant l'abondance. Voilà comment résonne pour moi cette parabole aujourd'hui. Faire pousser l'ivraie et le blé ensemble, sans chercher à séparer. C'est ce que nous vivons dans la ville. Nous sommes mélangés les uns aux autres. Je trouve que cette parabole est d'une pertinence pour le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où il y a un recroquevillement religieux, politique, ethnique, culturel. C'est-à-dire on se sépare des autres, on est meilleur. Moi je suis corse, enfin les Corses, j'étais en Corse en vacances, je suis corse, je suis catalan, je suis suisse alémanique, je suis roman, je suis des diablerets, non, je suis de Neuchâtel. On se renferme comme si l'autre pouvait nuire à mon identité. Puissiez-vous relire cette parabole à tête reposée et qu'elle puisse aussi, au moment de la moisson pour vous, au moment de la cueillette, que vous puissiez aussi discerner ce qu'il y a à faire pousser, à faire émerger. Et je crois que c'est ce que nous tentons de faire dans notre Église. Nous sommes au cœur de la cité. Et c'est au cœur de la cité que nous essayons de faire pousser le blé de l'espérance que l'Évangile nous donne. Amen. J'ai profité de cet été, mois de juillet, d'être au calme pour regarder de plus près le monde dans lequel je vis. Et j'ai lu, et sûrement vous aussi, toutes ces manifestations antiracistes suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Cette mort qui a donné lieu à des scènes étonnantes autour des statues dans nos villes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. En France, puisque j'étais là, Charles de Gaulle a été badigeonné, la statue de Charles de Gaulle, pas lui. La statue de Charles de Gaulle a été badigeonnée de jaune. Colbert est menacé d'être déboulonné. Gallieni et Faidherbe sont dans le collimateur des militants d'histoire épurée, de ces figures colonialistes, voire racistes. Et c'est vrai qu'il y a le De Gaulle du 18 juin et celui du « je vous ai compris », c'est son discours à Alger, et qui a été très mal pris par les pieds noirs. De même, il y a le Pétain de Verdun, et puis il y a celui de Vichy. De même, il y a le Jules Ferry de l'École pour tous et celui de la colonisation au nom des Lumières. Il y a en France le Colbert organisant le royaume et celui du Code noir. Et puis il y a le Faidherbe qui sauve le nord de la France des Prussiens en 1870 et c'est aussi le colonisateur du Sénégal avec violence. Ériger une statue, c'est proposer une personnalité en exemple à tous. C'est célébrer son œuvre. Alors je voudrais faire une parenthèse. Il y a beaucoup de statues un peu partout dans le monde, mais surtout d'hommes. Très peu de statues de femmes. Donc mesdames, vous ne craignez rien. On ne fait pas rentrer n'importe qui au Panthéon. On pourrait donc mettre au musée les statues de ceux qui font certes partie de notre histoire, mais qui sont bien peu exemplaires. Et je me suis demandé qui n'a pas sa part d'ombre. Quelle figure historique est irréprochable ? Quelle statue pourra résister à l'examen des générations après elle ? Et pourtant, abattre les statues est un signe de liberté retrouvée. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a renversé les statues de Staline, de Mussolini, de Saddam Hussein, de Pol Pot. Vous voyez ? Il faut arriver à démasquer, en fait, les fausses valeurs. Alors, je voudrais prendre le problème autrement. J'ai lu qu'il y avait des entreprises qui avaient une manière de manager leur équipe, de manière assez particulière. Alors, certains d'entre vous ont travaillé dans des entreprises, donc manager une équipe n'est pas simple. C'est-à-dire, un management dit libéré, c'est-à-dire qu'il repose sur la responsabilité de ses employés. Et il y a un patron très emblématique de cette philosophie, il s'appelle Zobrist. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, Zobrist. C'est quelqu'un qui a travaillé chez Favi, qui est une fonderie de pièces automobiles, et qui résumait sa philosophie en disant « Dans mon entreprise, la première valeur limite que j'ai imposée, c'est l'homme est bon. » Pourtant, on voit, du moins en France, pas en Suisse, hein, en France, que les entreprises voient se multiplier les arrêts maladie de complaisance. Les fraudes sociales atteignent des sommets énormes. En 2019, le fisc français a récupéré 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros de fraude. Les radars de vitesse sur les routes ne cessent de flasher. Donc, ce qu'on constate, c'est que la traite humaine reprend de plus belle après le confinement, avec les mafias. L'homme est bon, c'était le postulat de Zobrist. Ce credo est généreux, mais il se heurte à l'écueil de la réalité. Je ne vois pas toujours l'homme bon autour de moi. Et les faits sont toujours têtus. C'est la société qui corrompt l'homme, disait-on à un moment donné. Il suffit de révolutionner la société et l'homme devient bon. C'est ce qu'a essayé de faire le bolchevisme avec le résultat que l'on connaît. Qui veut faire l'ange fait la bête, disait Blaise Pascal. La parabole du bon grain, qu'Elisabeth a lu tout à l'heure, et de livrée de ce dimanche, vient avec sagesse tordre le cou à ces deux mythes complémentaires de la noirceur sans nuance, c'est-à-dire déboulonner les statues et de la bonté sans mélange, pas de contrôle. Alors on va rentrer dans cette parabole. Un mot d'abord sur le contexte de cette parabole que nous avons lue, de l'ivraie et du bon blé. Cette parabole vise les faux chrétiens qui, au 1er siècle, s'immisçaient dans les premières communautés chrétiennes pour des raisons multiples. Il y avait des convertis du bout des lèvres prêts à retourner au judaïsme ou au paganisme au premier obstacle. Il y avait des croyants sincères, mais que les menaces, les persécutions effrayaient, à juste titre. Les moins courageux pouvaient dénoncer leur famille, l'Église, pour éviter la prison ou le supplice. Sans oublier les espions romains ou juifs qui infiltraient les communautés chrétiennes. Livrer, semer avec le bon grain était d'abord cette part de communauté qui pouvait se retourner contre elle sous la pression des ennemis des chrétiens, si nombreux à l'époque. Une fois la paix de l'Empire accordée, après l'édit de Constantin, la parabole fournit un autre domaine de réflexion et d'interprétation pertinent. Le champ des semailles peut représenter la vie intérieure de chacun, son parcours spirituel. Dieu, le propriétaire du champ, n'y sème que du bon grain, mais ne peut empêcher qu'un ennemi tente de gâter la récolte en y mélangeant de l'ivraie. C'est donc que la présence du mal en nous est inéluctable. Dieu lui-même n'y peut rien. Et Jésus fait avec sagesse un constat lucide. L'homme est mélangé. Il n'y a pas en lui que du bon. Il n'y a pas en lui que du mal non plus. Il est depuis toujours cet arc-en-ciel de nuances qui entache les héros les plus grands et empêche de désespérer des personnages les plus ignobles. N'enlevez pas l'ivraie, dit Jésus. L'avertissement est solennel. Ne croyez pas que l'on puisse enlever totalement le mal de la vie collective ou personnelle. Et cette tentation de la pureté est suicidaire, car vous risquez d'arracher le blé en même temps. Déboulonner les statues à cause de l'ambivalence de leur titulaire peut conduire à abattre toutes les statues, c'est-à-dire à ne plus avoir d'histoire. Croire qu'on peut fabriquer un homme nouveau. Enfin, par toute compromission, c'est comme ça que démarrent toutes les dictatures. C'est comme ça que démarrent toutes les horreurs de l'histoire. Séparer, livrer de la bonne semence, c'est ce qu'a essayé de faire le nazisme avec l'arien, l'arien, l'homme arien. Les justices d'exception, l'épuration ethnique, on l'a vu un peu partout. On peut trouver de l'intransigeance aussi dans les religions, sur le divorce par exemple dans l'Église catholique, la contraception, l'homosexualité, ou bien c'est la peur des pratiquants réguliers lorsqu'ils voient débarquer en masse les occasionnels. Vous savez, on se méfie, on se dit, oh, ils ne viennent que de temps en temps, hein, comme les hirondelles, au bon moment. Sur le plan personnel, ce constat, lucide, me semble-t-il, et salvateur. Oui, c'est normal qu'il y ait du mal en moi. Chacun de nous est à la fois le Dr Jekyll et Mr Hyde. Moi, je deviens Mr Hyde quand je suis au volant de voiture et qu'à un moment donné, je m'énerve et même mes enfants me disent « mais on ne te reconnaît pas ». Je perds, vraiment, je deviens impatient. C'est extraordinaire. Comment se fait-il que tout d'un coup, on change, même dans le visage, nos expressions? Donc, cette présence, ces aspects fragiles de notre personnalité sont là. Je n'en suis pas responsable, c'est un ennemi qui fait ça en moi et je dois extirper cela. Mais ce mal me traverse, il s'incorpore dans ma structure de pensée, d'action, de jugement, simplement parce que je suis un être humain. Je participe de ce mélange et dont je ne me rends même pas compte parfois. Tous les épis ne sont pas apparus. Ainsi, le meilleur des hommes au 18e, 19e siècle peut être esclavagiste sans avoir de problème de conscience. Ainsi, Jules Ferry peut-il être colonialiste au nom des Lumières par lesquels l'Occident allait apporter le progrès et la civilisation à tous les peuples. C'est ce qu'il pensait. C'est ce que le pape Jean-Paul II appelait les structures de péché au niveau collectif. Je n'aime pas toujours ce qu'il écrit, Jean-Paul II, hein, entre nous soit dit, mais là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très précis. Et que depuis Augustin, nous appelons le péché originel au niveau personnel. Et bien malin qui pourrait se croire libre de toute forme d'asservissement au mal, d'une manière ou de l'autre. D'ailleurs, qui sait si ceux qui veulent déboulonner les statues ne seront pas durement jugés par leurs arrière-petits-enfants dans un siècle ou deux. Qui sait si telle pratique, qui aujourd'hui nous paraît évidente, naturelle et juste, ne sera pas dénoncée par les générations suivantes comme inhumaine, intolérante. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous, dit Jésus dans l'évangile de Luc. Les zélateurs d'une pureté historique, sans faille, feraient bien de se méfier des revers de l'histoire où ils apparaîtront à leur tour comme des monstres aveugles. Alors, quand je suis revenu, et en pensant à mon culte de ce matin et à la méditation de ce matin, je suis allé très vite voir s'il n'était rien arrivé de mal à la statue de Vadian. Dieu merci. Rien. Comme quoi, dans l'histoire, il y a des statues qui n'ont rien à se reprocher. Pour autant, ne pas extirper le mal ne signifie pas consentir. La parabole demande d'exercer cette forte vigilance pour repérer assez vite les parcelles contaminées qui sont en nous. Et surtout, elle demande d'enlever l'ivraie au temps de la moisson pour la lier en botte et la brûler. C'est donc qu'il faut le recul du temps et de la sagesse pour combattre l'ivraie en nous. Mais il n'est pas question de capituler. Hein, c'est comme, c'est une malédiction, c'est en nous, c'est se résigner. Non, on ne doit pas se résigner à ce mal. Nous moissonnons plusieurs étés au cours de notre vie et à chaque fois, en prenant du recul, de la distance, en relisant notre histoire à la lumière des Écritures, nous apprenons à discerner ce qui peut être amassé dans le grenier de notre cœur et ce qui n'est finalement qu'un feu de mauvaises herbes. Ainsi, de moisson en moisson, Loin de nous résigner à la présence du mal, en nous, nous le transformons en compagnon de voyage qui nous rend vigilants sur notre croissance. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'écharde dans la chair, qui rappelle en fait notre humanité. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes des êtres humains faillibles. Le mal en nous est finalement utile si nous muselons assez nos démesures pour ne pas trop blesser autrui. Accepter le mal en soi n'est donc pas y consentir, mais la parabole nous invite à accepter aussi le blé qui est semé en nous, plus fondamental, puisque c'est le projet de Dieu. Alors vous voyez, l'amour de soi est au prix de ce travail d'auto-évaluation. Ne cherchez pas à être meilleur que ce que vous êtes. Nommer le mal qui est en nous, c'est une manière de le surmonter. Et année après année, c'est une manière de faire le point, de prendre du recul et en rire. Il dit, quand j'ai fini par me... J'ai arrêté de m'énerver au volant, une fois arrivé à la maison, on en rigole. Il dit, mais tu te rends compte comment tu t'es comporté, qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et puis on se remémore ces moments où on a été ridicule, où la violence, où l'absurde a pris le pas. Et c'est une manière de combattre ce mal qui est en nous. C'est ce recul. C'est aussi une des forces du peuple juif qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. L'autodérision est une manière de prendre du recul, de ne pas se prendre au sérieux. Finalement, l'important dans la parabole est de grandir. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Que cette croissance soit mélangée ne doit pas nous étonner, nous scandaliser, nous décourager. Chacun a son côté obscur et son côté lumineux. L'essentiel est de grandir. Grandir en humanité, en sagesse, jusqu'à relativiser la présence du mal qui est en nous. Les moissons successives au long des années nous apprennent à ne pas nous attarder sur les mauvaises herbes, qu'il faut régulièrement effectuer pour nous concentrer sur les épis gorgés de vie et à récolter. Laisser pousser en nous le blé et livrer. Faites grandir sans cesse le meilleur de vous-même, sans vous laisser détourner de cette croissance. Alors le grenier de votre vie aura de quoi nourrir votre famille, vos amis, vos collègues, les voisins, comme Joseph en Égypte. Et tout ivré et brûlé, vous pourrez rire des échardes plantées dans votre chair en célébrant l'abondance. Voilà comment résonne pour moi cette parabole aujourd'hui. Faire pousser l'ivraie et le blé ensemble, sans chercher à séparer. C'est ce que nous vivons dans la ville. Nous sommes mélangés les uns aux autres. Je trouve que cette parabole est d'une pertinence pour le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où il y a un recroquevillement religieux, politique, ethnique, culturel. C'est-à-dire on se sépare des autres, on est meilleur. Moi je suis Corse, enfin les Corses, j'étais en Corse en vacances, je suis Corse, je suis Catalan, je suis Suisse alémanique, je suis Roman, je suis des Diablerets, non, je suis de Neuchâtel. On se renferme comme si l'autre pouvait nuire à mon identité. Puissiez-vous relire cette parabole à tête reposée, et qu'elle puisse aussi, au moment de la moisson pour vous, au moment de la cueillette, que vous puissiez aussi discerner ce qu'il y a à faire pousser, à faire émerger. Et je crois que c'est ce que nous tentons de faire dans notre Église. Nous sommes au cœur de la cité, et c'est au cœur de la cité que nous essayons de faire pousser le blé de l'espérance que l'Évangile nous donne. Amen.